Écoute. Écoute.
Bonjour, notre podcast hebdomadaire. Cette fois-ci, nous allons en Amérique latine. Amérique latine qui est devenue le foyer de la pandémie du Covid-19. Pour en parler, évidemment, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour, Christophe.
Bonjour.
On croyait que l'Amérique latine allait un peu échapper à cela. Et maintenant, c'est devenu le foyer le plus important du Covid-19. Comment expliquer ce phénomène?
Effectivement, l'Amérique latine est devenue, bon, c'est la formule consacrée, l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Avec, on a dépassé maintenant assez largement le million de personnes contaminées sur les 6 millions et quelques au niveau de la planète. Donc, c'est vraiment très important. Alors, c'était en réalité relativement prévisible par certains aspects, puisque l'Amérique latine, d'abord, elle est confrontée à une autre épidémie qui n'est pas tellement commentée, mais c'est l'épidémie de la dengue, qui est la plus importante de toute l'histoire de la région. Donc, c'est plus de 3 millions de Latino-Américains qui sont frappés aussi par cette pandémie-là, qui donc déjà met à rude épreuve les fragiles systèmes de santé et sanitaires régionaux. Deuxième point qui était un peu prévisible, c'est le fait que, bah, précisément, l'Amérique latine, ce qui la caractérise, c'est la vulnérabilité de ses systèmes de santé et de protection face aux risques sanitaires. On le sait depuis très longtemps. C'est à la fois lié à des effets de structure, puisque c'est des systèmes qui sont largement, sous-financés depuis très longtemps pour ce qui est de leur partie publique, des infrastructures et des services publics, en particulier ces dernières années qui ont connu, depuis le début des années 2010 environ, une forte austérité, hein, et donc des baisses très importantes des dépenses publiques en matière de santé en Amérique latine, largement en deçà de ce qu'on peut connaître dans les pays européens, par exemple, mais en plus des systèmes de santé dont la dimension publique est relativement modeste dans l'ensemble des dispositifs, qui sont largement privatisés, en fait, largement privés, et en fait, beaucoup de Latino-Américains peuvent se soigner à partir du moment où ils peuvent, par des logiques d'assurance privée, avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Donc l'addition de tous ces facteurs crée un système de santé très vulnérable pour absorber des chocs, des déferlantes comme une pandémie de Covid-19. Troisième point pour lequel c'était un peu prévisible aussi, eh bien c'est tout simplement que l'Amérique latine combine, des maladies et des profils de pays pauvres, mais aussi de pays riches. Il y a des maladies de pays pauvres, je l'ai dit quand je parle de la dengue par exemple, mais l'Amérique latine c'est aussi une région où les problèmes de diabète, les problèmes de cholestérol, les problèmes de maladies cardiovasculaires sont très importants. Les problèmes d'obésité, hein, souvent on cite à juste raison le cas du Mexique, qui est le pays où l'obésité est la plus forte au monde, certainement. Eh bien, tous ces facteurs, finalement, se combinent pour créer un cocktail tout à fait, destructeur, enfin en tout cas, qui est problématique par rapport à l'arrivée d'une pandémie comme celle du Covid. Et c'est tout ça qui fait que la région aujourd'hui se retrouve, confrontée à cette pandémie, plus évidemment les choix de gestion politique dont on va reparler, qui sont différents selon les pays. D'ailleurs, il faut souligner qu'il n'y a aucune cohérence dans la gestion de cette maladie en Amérique latine. Les stratégies sont très différentes d'un pays à l'autre.
Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus à l'abri, d'autres qui seraient plus atteints? On a beaucoup parlé du Brésil, on y revient tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des pays qui échappent un peu plus que d'autres, ou est-ce que la pandémie est également répartie en fonction de la population respective de chaque État?
Alors, il y a effectivement trois groupes, grosso modo, en Amérique latine. Il y a des pays qui échappent relativement au Covid, et ça peut être surprenant, mais c'est des pays auxquels on s'attend pas forcément, comme Cuba et le Venezuela. D'ailleurs, le président cubain vient d'annoncer la fin, en fait, hein, de la pandémie, en tout cas dans ses effets les plus importants à Cuba.
Alors Cuba, on peut le comprendre parce qu'il y a à la fois l'isolement et un système de santé très développé malgré la pauvreté du pays, mais le Venezuela c'est plus surprenant.
Alors parce que Cuba, enfin le Venezuela par certains aspects ressemble à Cuba. Vous avez au Venezuela un pays qui est très contrôlé politiquement et socialement, un peu sur le modèle cubain, ce qui fait qu'il y a toute une chaîne de commandement qui fait qu'il y a un contrôle très efficace des populations. situation. Ça joue dans le cas vénézuélien aussi. Dans le cas vénézuélien, ce qui joue aussi, c'est qu'à l'instar de Cuba, c'est un pays désormais qui vit, disons, relativement déconnecté, disons, des circuits internationaux, des circuits de marchandises, du fret, des transports humains aussi, du fait qu'au moins depuis 2015, il vit sous des mesures restrictives fortes qui sont imposées par les États-Unis et secondairement par l'Union européenne, qui fait que le pays a beaucoup moins de cas importés, ou en tout cas a eu en tout cas au début de l'épidémie beaucoup moins de cas importés que d'autres pays de la région, par exemple. Et puis il a aussi une démographie par contre qui est différente de celle de Cuba, le Venezuela, qui est une démographie jeune, très jeune. Donc on peut penser qu'une part de l'épidémie est bien arrivée dans le pays, mais qu'elle a été, elle s'est exprimée sous des formes relativement modérées ou asymptomatiques, hein, contrairement à Cuba où il y a une partie de la population vieille qui est plus importante. Et puis il y a l'appui de Cuba au Venezuela qui est très forte, qui est très fort, ainsi que celui des Chinois qui a permis des stratégies de dépistage, les masques, etc., etc., de manière systémique dans le pays. Donc c'est les deux pays qui sont relativement les plus préservés par l'épidémie.
Il y en a pas d'autres. Donc c'est vraiment aussi pour des raisons politiques d'un certain côté.
C'est clair. Alors, après il y a deux autres groupes. Il y a, on va dire, le pays moyennement impacté en chiffres, mais qui sont à l'échelle des pays qui créent des conséquences très graves. C'est le cas du Chili, de la Colombie. On a des dizaines de milliers de cas qui sont infectés. Et puis, on a maintenant quelques centaines, voire des milliers de morts dans ces pays-là. C'est les pays intermédiaires. Et puis, les pays les plus touchés, ben, on les connaît, bien sûr. Chili, Colombie, il y a aussi l'Argentine dedans. Et les pays les plus touchés, c'est les deux principales puissances, en fait, latino-américaine. C'est le Brésil et le Mexique qui sont les deux pays les plus touchés. Et là, tout à fait, la question de la gestion politique, elle est déterminante. On voit bien que selon la manière qu'est gérée la crise, soit qu'on est dans des stratégies de confinement ou déni ou de non-confinement, parce qu'on considère que finalement, même s'il y a des morts et des gens infectés, bah, ce sont des externalités négatives, certes, mais qui sont moins graves pour le pays que le fait de laisser les activités économiques se déployer, comme ça a été le cas au Brésil, c'était la stratégie de Bolsonaro, et partiellement celle de López Obrador au Mexique, eh bien on voit que du coup ça a favorisé des clusters qui se sont développés en plus dans les territoires les plus pauvres du pays, dans les bidonvilles, etc., qui font que ce sont les deux principales puissances qui sont les plus touchées en fait.
Diriez qu'il y a une sorte de gestion comparable du Covid-19 par Andrés Manuel López Obrador et par Bolsonaro?
Non, je dirais pas qu'elle est comparable, mais je dirais qu'elle a des points convergents.
Comment ça s'est passé au Mexique alors?
Alors au Mexique, ça s'est passé de la manière suivante. Au départ, il y a eu, disons, une réaction tardive du gouvernement à prendre des mesures qui s'imposaient parce que le pays n'avait pas les moyens du dépistage systématique, et les mesures qui s'imposaient, c'était le confinement. Donc López Obrador s'est retrouvé confronté à des, contraintes un peu divergentes et des influences différentes. Obrador a été influencé par ceux qui constituent sa coalition politique. D'abord, il a été influencé par des secteurs, des élites économiques et financières mexicaines qui n'ont pas voulu le confinement parce qu'ils ont voulu que la machine continue à tourner. Et en particulier, ils ne voulaient pas que le Mexique prenne des dispositions qui allaient nuire aux échanges avec les États-Unis. Et donc, il y avait un calage qui était demandé par rapport à la politique de Trump sur la gestion du Covid. Et puis d'autre côté, López Obrador a été aussi influencé d'une certaine mesure par les groupes religieux, en particulier les églises évangéliques, qui font partie aussi de la coalition qui le soutient au pouvoir et au Congrès mexicain, qui, à l'instar d'autres dans d'autres pays, eh bien ont voulu voir dans cette pandémie une plaie divine, et le fait est donc qu'il fallait l'accepter, etc., et surtout ne pas confiner les églises, etc., etc. Donc il a été un peu ballotté, López Obrador, au départ là-dessus. Il sait, c'est difficile à comprendre quand on est en France ou en Europe, mais il sait que, à l'instar des Brésiliens d'ailleurs, que leurs économies sont très vulnérables parce que ce sont des économies qui sont organisées autour, en particulier, du secteur informel, et que ces millions de personnes qui ne peuvent pas aller travailler du jour au lendemain et qui ne peuvent pas être confinées comme il faut parce qu'elles ne peuvent pas assurer les règles de distanciation sociale, les règles de lavage de mains lorsque vous habitez dans des habitats, qui ne permettent pas de faire tout ça, etc. Il a considéré à un moment donné qu'il valait mieux que ces gens-là puissent avoir une activité que de les enfermer chez eux.
Donc l'abstinence, c'était mourir de faim ou mourir du Covid-19.
En quelque sorte, c'était quand même ça le fond de l'affaire. Voilà, c'était un peu ça le fond de l'affaire, mais qui n'a pas donné la même réponse en pratique au Mexique qu'au Brésil. Au Brésil, on a plutôt eu une sorte de, comment dirais-je, autour de ce débat-là, il y a eu un dysfonctionnement des institutions brésiliennes, il y a eu une divergence, une discordance très forte des acteurs politiques, puisque la ligne qu'a eu Bolsonaro n'a pas été celle qui a été choisie par nombre des gouverneurs des États de cette République fédérative et des maires de villes, etc. Alors qu'au Mexique, s'il y a eu les hésitations de López Obrador au départ, la ligne qui a été choisie lorsqu'elle a été fixée, qui a été au bout d'un moment le confinement, en réalité, eh bien, elle a été appliquée partout au Mexique. Donc ça a eu des effets quand même différents là-bas qu'au Brésil.
Est-ce qu'en nombre de morts par habitant, la situation est pire au Brésil ou comparable entre le Brésil et le Mexique ?
Non, elle est pire au Brésil. Elle est pire au Brésil, mais elle est quand même assez élevée au Mexique. Quand on regarde ce chiffre par rapport à la population, on a au Mexique un des chiffres les plus élevés, d'ailleurs le deuxième le plus élevé, ou le troisième après l'Équateur. Il est possible que ce soit l'Équateur qui soit devant le Mexique, mais en tout cas, c'est quasiment le même. Il est évident que les deux gestions, en tout cas, font que ces deux pays-là, eh bien, indépendamment de leurs différences, sont les deux pays qui se retrouveront devant l'histoire les plus touchés par la maladie elle-même et ses impacts.
Alors, la différence, c'est qu'au Brésil, Bolsonaro est dans même une négation de la pandémie.
Oui, Bolsonaro est dans une... il ne nie pas l'existence de la pandémie, mais il en nie la primauté sur toute autre considération. Bolsonaro considère que cette pandémie, en fait, dans une philosophie qui est quasiment, qu'on peut qualifier de néo-darwiniste, en fait, considère que c'est une mauvaise nouvelle, mais que, comme il l'a dit plusieurs fois, c'est comme la pluie, c'est-à-dire que ça arrive et les sociétés humaines doivent assumer le coût de ce genre de problème, et que le coût de ce genre de problème est important. Il va toucher des populations qui sont d'ailleurs plutôt les populations les plus vulnérables, mais c'est qu'il y a finalement une réalité naturelle à ce genre de choses qu'il faut assurer pour préserver l'essentiel. L'essentiel étant pour Bolsonaro, encore une fois, la bonne marche de l'économie telle qu'elle existe au Brésil, sans en remettre en cause les logiques et les moteurs d'inégalité ou de production de la pauvreté, etc. Il a dit aux gens, je suis celui qui vous, travailleurs de la rue, du secteur informel, etc., veut vous laisser travailler dans votre échoppe, dans la rue, vendre votre nourriture, ici faire le taxi, etc., etc. Mais je suis celui qui va vous permettre ça pour vous défendre de la Cour suprême, du Congrès, des gens qui vivent dans les villes, bien éduqués, les universitaires, les bien nourris, etc., qui veulent se confiner pour être en sécurité. Donc il leur a proposé, en fait, de continuer à pouvoir avoir leurs activités.
Donc ils jouent la base contre l'élite serait confinée, et la base ne va pas être contrainte par l'élite à être confinée, parce que eux ils ont besoin jour par jour de gagner ce qu'on appelait autrefois le pain quotidien.
C'est exactement le cœur de sa stratégie, dont il faut pas sous-estimer l'efficacité politique, parce qu'il crée avec le Covid un nouveau clivage politique, une frontière politique où il est celui qui est finalement le détenteur, ou celui qui permet de faire vivre les intérêts quotidiens des gens qui n'ont d'autres ressources que leur force physique au quotidien à vendre dans le système informel.
Et est-ce que l'on peut dire alors que dans ce cas-là, le confinement aurait des répercussions grave sur d'autres plans, sur d'autres maladies qui pourraient se déclarer, ou simplement sur l'alimentation? Est-ce que c'en est à ce point-là? C'est bien sûr difficile d'un point de vue européen, parce qu'on a quand même des systèmes de protection qui sont beaucoup plus développés. On peut ne pas travailler un jour sans avoir faim. Est-ce que finalement c'est un choix rationnel du point de vue de Bolsonaro?
Alors c'est difficile à manier, parce que mais je crois que le choix de Bolsonaro dans le contexte brésilien, il a une rationalité, c'est indéniable. Il a une rationalité qui lui confère le soutien qu'il a encore malgré ses dérives, ses excès, etc. Il faut admettre que Bolsonaro a un soutien assez significatif de cette population-là.
Y compris, ce qui est le paradoxe, c'est des plus démunis dont Lula avait amélioré la situation et qui ont vu leur situation se dégrader par le démantèlement, notamment déjà par Temer qui avait remplacé Dilma Rousseff, puis par Bolsonaro, de tous les dispositifs sociaux mis en place par Lula.
Tout à fait, c'est exactement cette situation-là, mais dans ce contexte-là, c'est les gens dont on parle, les catégories populaires, les pauvres, les gens qui travaillent dans le secteur informel, n'ont pas d'autre espoir en réalité que celui de pouvoir survivre tel que dans la situation où ils sont aujourd'hui, ils ne caressent pas l'espoir, ils n'ont pas un espoir en réalité d'une société qui sera meilleure pour eux, et il n'y a pas d'alternative politique dans laquelle ils pourraient, qu'ils pourraient suivre en lieu et place de Bolsonaro. Et Bolsonaro, là-dessus, joue sur une situation qui lui est plutôt favorable. Et donc, c'est ça la situation aujourd'hui au Brésil. Maintenant, la situation, c'est que le pays va vivre une déflagration économique et sociale très, très forte. Le Brésil, un des plus touchés par les conséquences économiques et sociales du Covid, ça va être le Brésil. On va avoir une récession certainement de 8 à 10% dans l'année 2020. On va avoir une explosion de la pauvreté, etc. Donc, Bolsonaro, encore une fois, c'est pas tellement dirigeant qui propose de modifier les logiques qui créent les conditions dans lesquelles survivent des dizaines de millions de Brésiliens. Il est celui qui leur dit « Moi, je vous propose simplement de continuer à vivre de cette manière-là contre ceux qui eux, se protègent et qui seront de toute façon protégés des conséquences de cette maladie-là. » C'est tout ce qu'il propose.
Alors, aux États-Unis, Barack Obama, qui commente assez peu l'actualité politique nationale, a déclaré que la gestion de Donald Trump était chaotique. Il a vivement critiqué. Est-ce que Lula a, par rapport à Bolsonaro, a eu le même type de propos? Est-ce que Lula s'est posé un peu en gardien des intérêts nationaux ou de la rationalité d'une gestion du pays par rapport à la gestion de Bolsonaro? Est-ce que l'on peut faire cette comparaison Lula-Obama d'un côté, Bolsonaro-Trump de l'autre?
Je crois qu'on peut la faire. Lula était très offensif contre Bolsonaro depuis le départ. Non, il a même eu des mots très forts puisqu'il a comparé la gestion politique de la crise de Bolsonaro à une forme de génocide, hein, en disant que la politique de Bolsonaro aboutissait à la mort, en fait, hein, en particulier des plus vulnérables, justement. Donc non, il y a, à mon avis, une comparaison qui peut être faite. Toute la difficulté, c'est que aujourd'hui, Lula n'est pas en mesure, en réalité, d'incarner une alternative à Bolsonaro. Il faut admettre qu'aujourd'hui, le jeu politique brésilien se fait à l'inverse des États-Unis. C'est pas tellement encore un match entre démocrates et républicains, où par exemple, on voit qu'Obama peut-être rapprocher Joe Biden d'une victoire en novembre. Au Brésil, c'est pas ça. Au Brésil, le jeu politique aujourd'hui, il se fait moins dans l'affrontement entre la gauche qui essaye de recomposer, de refédérer Lula et Bolsonaro. Le jeu politique au Brésil, il se fait plus entre, disons, la droite radicale qui est autour de Bolsonaro et la droite plus, traditionnelle ou libérale qui essaie d'échapper, au ralliement qu'elle a accepté d'avoir pour lui en 2018. C'est là que se fait le jeu politique. Je crois qu'il y a une recomposition du jeu politique au Brésil qui se fait plutôt à droite. Et la gauche, aujourd'hui, elle est quand même encore sur le bas-côté et pas en état de revenir.
Et pourquoi Lula, quand même, a été, enfin, si ce n'est innocenté, quand même, il est maintenant documenté que le procès qu'il a subi est un procès politique, beaucoup plus qu'un procès juridique. Donc Lula n'a pas repris l'image un peu de victime, de martyr qu'il pourrait avoir. Et le Parti des Travailleurs et Lula sont... Pourtant, Lula était favori s'il avait pu concourir aux élections. Mais là, maintenant, il est politiquement marginalisé.
Alors... je pense qu'il faut distinguer Lula du Parti des Travailleurs. Le Parti des Travailleurs est dans une longue convalescence qui n'a fait que commencer. C'est un parti qui reste largement impopulaire, qui essuie encore beaucoup de critiques sur le thème de la corruption, parce que tout ça continue d'ailleurs. Hein, au Brésil, l'affaire Lavage à taux continue, etc. Donc tout ça a fait beaucoup de mal à ce parti, qui par ailleurs aujourd'hui a surtout du mal à élaborer un projet pour la société brésilienne qui ne soit pas un simple retour finalement aux années fastes du lulisme des années 2000-2006. Et par ailleurs, ce qu'on appelle le lulisme était une stratégie, un modèle politique qui n'a plus cours aujourd'hui, puisque la situation a totalement changé. Lula proposait finalement une conciliation à l'avantage des classes populaires entre justement le grand camp politique et social populaire brésilien et puis une partie des élites productives brésiliennes qui pouvaient se concilier ensemble autour d'un projet de développement et d'affirmation du Brésil au niveau régional et international. Mais cette alliance, elle s'est complètement rompue, puisque le camp populaire est fractionné, une bonne partie de l'électorat qui suivait le PT ne le suit plus aujourd'hui, et que la recomposition politique majoritaire au Brésil, elle s'est faite à travers Bolsonaro, entre une alliance entre la droite traditionnelle, celle qui a trahi Dilma Rousseff en votant l'impeachment, hein, je pense au parti de la social-démocratie brésilienne et au parti du mouvement démocratique brésilien qui occupait la vice-présidence du gouvernement de Dilma Rousseff, se sont alliés pour soutenir aujourd'hui Bolsonaro. Donc c'est pour ça que je disais que aujourd'hui le jeu se fait entre eux et Bolsonaro. C'est là que ça se passe. Et le PT est un petit peu isolé et il n'arrive pas aujourd'hui à réunir toutes les forces de la gauche et surtout à leur donner de nouveaux projets. Lula là-dedans, il garde une équation personnelle forte, et elle est indéniable. Aujourd'hui, Lula, dans tous les sondages, apparaît comme le troisième homme dans la concurrence électorale qui pourrait devenir au Brésil. Il est le troisième homme après Bolsonaro et Sergio Moro, mais il n'a plus, disons, ce supplément qui avait permis de d'unir au-delà de ses propres forces. Aujourd'hui, Lula, c'est l'homme qui peut essayer d'unir les forces de la gauche. Il n'y arrive pas encore, mais il n'est plus en position d'être celui qui unit au-delà de son camp.
Revenons au Covid-19 pour conclure. On voit que le Covid-19 est venu stimuler et aggraver la concurrence, la compétition, la rivalité entre la Chine et les États-Unis. L'Amérique latine est un peu à mi-chemin, puisque les intérêts économiques de l'Amérique latine sont de plus en plus tournés vers la Chine, mais on sait que les États-Unis gardent une influence très forte. Est-ce que le Covid-19 est venu modifier l'équation, le duel sino-américain en Amérique latine?
Alors non, je dirais pas que le Covid-19 est venu modifier en fait la situation latino-américaine prise en étau entre les Chinois et les États-Unis, qui sont effectivement les deux principaux partenaires économiques, commerciaux et géopolitiques de tous les pays de la région. Sur le plan commercial, c'est la Chine aujourd'hui qui est en tête devant les États-Unis, mais sur bien d'autres aspects, les États-Unis sont toujours très implantés dans la région. En revanche, la crise du Covid, elle est venue exacerber cette situation-là, elle est venue révéler à quel point les pays latino-américains et l'Amérique latine est la région où se joue précisément aujourd'hui une bonne partie sur le terrain du rapport de force sino-américain, sur le plan commercial, je l'ai dit, sur le plan financier, mais aussi sur le plan géopolitique directement. Je pense par exemple au dossier vénézuélien qui, en tout petit, en modèle réduit, vient raviver des logiques qu'on a connues de conflits par pays interposés entre les grandes puissances, etc. Et le Venezuela, c'est le terrain de ça aujourd'hui. Cuba, d'une certaine manière aussi. Donc, le Covid est venu révéler à la fois l'importance qu'avait pris la Chine ces dernières années dans la région, avec l'aide chinoise en masques, en matériel et en personnel pour lutter contre la maladie dans ces pays directement partenaires, je viens de les citer, mais aussi dans d'autres pays. C'est ça qui est intéressant, c'est que la Chine a aidé tout un tas de pays latino-américains.
Justement, est-ce que la Chine a marqué des points, puisque les Américains se sont repliés sur eux-mêmes par rapport à cette crise de Covid-19, est-ce que la diplomatie du masque, en dehors des alliés traditionnels Cuba, Nicaragua, Venezuela, est-ce que la Chine a marqué du point dans d'autres pays naturellement plus enclins à se tourner vers Washington?
Indéniablement. Et elle a révélé en fait surtout l'absence des États-Unis. C'est que, encore une fois, la Chine a d'autant plus pu se déployer que les États-Unis ont marqué la région par leur absence. En particulier, on a parlé à juste titre de cette crise peut-être comme un des premiers moments post-américains, dans le sens où les États-Unis n'ont pas assuré leur leadership mondial. En Amérique latine, ça crève l'écran. Hein. Donc les Chinois et la diplomatie du masque, elle s'est déployée justement pas que dans les pays auxquels on aurait pu penser, comme Cuba et Venezuela, mais partout. Hein. Les Chinois ont fait cette diplomatie du masque dans tout un tas de pays, je pense au Pérou, il y en a beaucoup d'autres, et a révélé effectivement à quel point la présence chinoise aujourd'hui, elle est généralisée en fait en Amérique latine, et à quel point l'administration Trump a confirmé l'isolement politique des États-Unis dans la région, sauf pour ce que Trump considère comme vital pour les États-Unis, c'est-à-dire la pression maximale sur Venezuela et Cuba, et deux, la politique de renvoi des migrants, la politique migratoire de Trump, qui a pendant le Covid continuer, puisque là c'est une des choses que Trump a continué d'organiser, ce sont le renvoi par avion, des dizaines d'avions sont partis des États-Unis avec des migrants centra-américains vers le Mexique, le Guatemala, le Salvador et le Honduras. Donc ça, ça a continué. Donc en fait, ça a révélé comme une sorte de photographie, enfin de scanner, l'état des lieux, des relations américaines avec l'Amérique latine. On en est resté au dossier vitaux pour Trump, ce que je viens de dire, et puis le déploiement chinois qui est révélé au-delà précisément des alliés évidents dont on parle souvent, comme les Cubains et les Vénézuéliens. Absolument.
Merci Christophe Ventura pour ce tour d'horizon très complet sur l'Amérique latine et la crise du Covid-19 en Amérique latine.